السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، on s'est arrêté la dernière fois dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours au tout début de la bataille de Uhud. Et on est toujours dans cette étape, on a terminé l'étape de la préparation, l'organisation de l'armée, l'arrivée des deux armées et leur positionnement, tout ça on l'a fait. Et on n'a toujours pas débuté la véritable attaque des deux armées. Mais on est toujours dans l'étape où... Il y a des démonstrations de force de part et d'autre. Il y a eu le duel entre Talha ibn Uthman et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. On a vu que il y a Abu Sufyan, le chef des armées idolâtres, qui a galvanisé la tribu des Bani Abdiddar, qui sont ceux qui portent Ar-Raya, l'étendard, hein, en leur disant « c'est à cause de vous ». Qu'on a perdu la bataille de Badr parce que vous n'avez pas su défendre la raya, l'étendard, comme il faut. Et donc, il va les galvaniser, les provoquer, provoquer leur orgueil, et ça va fonctionner. Tout comme on a vu la fois dernière, le rôle que jouent les femmes idolâtres. Hein, on avait expliqué qu'il y avait, selon un certain nombre d'historiens, à peu près une vingtaine de femmes qui vont accompagner cette armée idolâtre, qui ont pour rôle aussi d'inciter, d'être des incitatrices, des femmes qui galvanisent aussi. Et donc, on a vu que, par exemple, il y avait Hind bint Utba, évidemment, l'épouse d'Abu Sufyan. Il y avait Umm Hakim bint al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira. Il y avait Fatima bint al-Walid ibn al-Mughira. Il y avait Barza bint Mas'ud al-Thaqafiyya, il y avait Raita bint al-Munabbih ibn al-Hajjaj, il y avait Khunas bint Malik, qui fait partie des Bani Abdiddar et qui est aussi la mère du compagnon Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, à qui lui-même, du côté des musulmans, c'est à lui aussi que le professeur Hassan donne l'étendard des musulmans, puisqu'on avait expliqué que de manière ancestrale, l'étendard se faisait hériter dans la tribu, c'était un honneur et un droit pour la tribu des Bani Abdiddar. Et donc le professeur Hassan va conserver ça à la bataille de Uhud. Comme dans le camp d'en face, dans le camp idolâtre, il y a les Bani Abdiddar qui, eux, ont l'étendard. Et il y a aussi Sulafa bint Sa'd, qui fait aussi partie des femmes importantes des Bani Abdiddar qui vont accompagner l'armée idolâtre, et qui va même perdre son époux et trois de ses fils dans la bataille de Uhud. Puisque, comme on va le voir, la tribu des Bani Abdiddar, de part et d'autre d'ailleurs, du côté musulman comme du côté idolâtre, vont payer le plus lourd tribut en nombre de morts à la bataille de Uhud. Abu Sufyan, donc on est toujours dans cette démonstration de force, et essayer de provoquer jusqu'au bout. Chaque camp essaye de montrer sa force et chaque camp essaye aussi de faire peur, de terrifier le camp d'en face pour qu'ils deviennent lâches, pour qu'ils aient peur. C'est important avant le début de la bataille. Non. Ça se fait encore dans certaines compétitions un peu moins. À une époque, par exemple, on sait que dans les compétitions de boxe, il y avait d'abord des rencontres. Mohamed Ali, fameux boxeur américain, rahimahullah, était connu pour ça. Il y avait des rencontres d'abord où juste il parlait. Et ça se provoquait, ça s'insultait, tu vas voir ce que je vais te faire, etc. Mais c'est que de la parole. Non, mais il faisait semblant de vouloir se battre avec les autres, il les séparait. Et ensuite, il y avait le vrai match. Non, j'ai envie de dire, c'est une tradition, une sunna qui se perd. Mais en tout cas, la bataille de Uhud, c'est un petit peu le même genre, dans le sens où les deux armées, elles se provoquent parce qu'il y a, dans toute guerre, il y a le moral qui est très important. Et cette étape, elle est importante parce que les deux armées se font face. Ça va être des combats en tête à tête, d'homme à homme. Donc c'est très important, le moral. Non. Et donc on a Abou Sofiane qui va tenter une chose pour vraiment démoraliser l'armée, pour encore une fois essayer de diminuer l'armée des musulmans. On sait qu'elle a déjà été amputée d'un tiers, l'armée des musulmans, puisque Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Ra'is al-Munafiqin, le chef des hypocrites, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu un tiers de l'armée de retourner à Médine alors qu'il n'était même pas encore arrivé à Uhud. Il avait même réussi à semer le doute dans deux tribus, les Bani Salama et les Bani Haritha, mais Abdullah ibn Amr ibn Haram, il va réussir à convaincre, puisqu'il fait partie de ces tribus-là, à convaincre les gens chez qui le doute était apparu de rester. Et ici, Abou Soufiane, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adresser, il va s'approcher de l'armée des musulmans, il va s'adresser aux compagnons de Médine. Et il va dire: Ya ma'shar al-Aws, wa ya ma'shar al-Khazraj, ô vous, les Aws, et vous les Khazraj. Puisque, comme vous le savez, les deux tribus majoritaires qui peuplent la ville de Médine avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est l'Aws et le Khazraj. Donc là, il s'adresse aux Médinois et il leur dit: Ya ma'shar al-Aws, wa ya ma'shar al-Khazraj, khallu baynana wa bayna bani ammina. خلوا بيننا وبين بني عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة لنا في قتالكم. Ô vous, la tribu des Aws, et ô vous, la tribu des Khazraj. Donc c'est quand même le chef de la Mecque qui s'adresse à eux. Ils sont venus jusque-là menaçant pour la ville de Médine, donc menaçant pour les tribus des Aws et des Khazraj. Mais il s'adresse à eux, il leur dit: Laissez-nous, entre nous, Bani Amina, et nos cousins. Les gens de la Mecque, ce sont nos cousins. Il y a nos frères, il y a nos beaux-frères, il y a nos neveux, il y a nos cousins, il y a les gens de notre tribu. Le Mouhim, c'est qu'il y a des liens entre nous. Laisser, c'est une affaire, il veut, en fait, ce qu'il veut leur dire, c'est laisser, c'est une affaire de famille, une affaire de tribu. Ça ne vous concerne pas. Khallu baynana wa bayna bani Amina. Laissez-nous à laver notre linge sale en famille, discrètement. Ne vous mêlez pas de ça. Ne prenez pas parti. Fanan sarifa ankum. Et nous vous laisserons tranquilles. Fala hajata lana fi qitalikum. Parce que nous n'avons aucun besoin, aucun bénéfice dans le fait de vous combattre, vous. Et les historiens qui apportent ce récit, qui, par honnêteté intellectuelle, nous le disons comme d'habitude, n'a pas été authentifié, ce récit. Ils disent فَأَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ. Ils lui ont fait entendre ce qu'il déteste. Yani, évidemment, ils ne lui ont pas répondu positivement à sa requête. Donc ici, ça veut dire, qu'est-ce que Abou Sofiane demande clairement? Il demande: livrez-nous. Laissez-nous Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, allez-vous, ne le soutenez pas, ne le défendez pas, ne le protégez pas. Et on n'aura plus aucun problème entre nous et vous. Et si cette version est avérée, mais elle n'a pas été authentifiée comme on l'a dit, on a des gens qui, au final, quand on regarde, ils n'ont aucun bénéfice dans ce combat. Attention, je parle bien du bénéfice de Dunia, de la vie mondaine. Qu'est-ce qu'ils vont rapporter ? Ils ont déjà eu beaucoup de morts à Badr. Je vous rappelle que la plupart de ceux qui sont tombés en martyr étaient plus du côté des Ansar que du côté des Muhajiroun. Ils sont menacés par beaucoup de tribus depuis qu'ils ont accueilli le professeur Salem. Il y a eu de nombreuses expéditions avant la bataille de Badr, entre Badr et Uhud. Et donc quelqu'un qui raisonnerait, juste comme le font les hypocrites d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont retirés de l'armée, quelqu'un qui raisonnerait juste en termes de bénéfice de Dunia, il n'a aucun avantage dans cette affaire. Le professeur Hassan ne leur ramène pas la richesse. Au contraire, c'est à eux, en tout cas dans ces années-là, c'est à eux de payer pour accueillir les musulmans de la Mecque. Donc, il n'y a vraiment aucun bénéfice. Et là, on a le chef de la Mecque qui leur dit, il saisit, parce qu'il comprend la situation. Donc, quand on entend l'Ansar, ils ont protégé, ils ont fait... Mais on oublie cette situation. Matériellement parlant, financièrement parlant, les Ansar, ce sont ceux qui sacrifient beaucoup. Ils sacrifient de leur argent, de leur récolte, pour accueillir et pour régler le problème des réfugiés. Parce qu'au final, ce sont ceux qui sont exilés, les Muhajiroun, ce sont des réfugiés. Et quand je dis qu'ils ont résolu ce problème, en vérité, le problème ne s'est jamais posé. Parce que pour résoudre le problème, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, ils ne savent pas où habiter, on va réfléchir et ensuite on trouve une solution. Eux, en arrivant, il n'y a personne qui a dormi à la rue. Il n'y a personne qui a dû faire la file d'attente à partir de 2h du matin dans une préfecture pour demander un droit d'asile et ceci et cela. Et en attendant, il doit se débrouiller. Tous, sans exception, ils ont été accueillis dans des demeures. Ils ont été nourris, logés, blanchis, jusqu'à ce qu'ils arrivent à repartir à zéro et à se faire une nouvelle vie sociale et une vie économique dans Médine. Et donc, Abu Soufiane s'adresse à ces gens-là, il leur dit, vous n'avez rien à gagner, vous le savez. Livrez-le-nous. Vous ne voulez pas le livrer, Marlich, rentrez chez vous. On ne vous demande même pas de nous le livrer. Juste rentrez chez vous et laissez-le. On va s'en occuper tout seul. Vous n'avez même pas, entre guillemets, à le trahir ouvertement et à nous le livrer. On va s'en occuper. Et les Ansar, même si les historiens ne nous disent pas clairement ce qu'ils ont dit, ils nous disent « فَأَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ » Ils lui ont fait entendre ce qu'il a détesté. Non. Abu Soufiane, il tente plusieurs choses parce qu'il est, en tant que chef idolâtre, dans cette étape, et cette étape n'est pas finie, de cette démonstration de force, de provocation, etc. Et là, l'autre chose qu'on peut trouver dans certaines versions, mais qui est très peu probable pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'a pas été authentifiée. Et la seconde, c'est que quand on prend d'autres éléments, ça tend à démontrer que c'est probablement pas une chose qui est arrivée, mais certains historiens la citent, on va la citer. C'est le fait qu'il aurait amené, pour galvaniser son armée, la fausse divinité Al-Lat et la fausse divinité Al-Uzza. Ils ont des idoles, les idolâtres de la Mecque. Les plus connus, c'est d'abord Hubal, ensuite Al-Lat, Al-Uzza, Manat, et il y en a d'autres. Mais ces quatre-là, c'est les plus connus. Hubal, Lat, Al-Uzza et Manat. Et certains historiens prétendent, on trouve par exemple cette version chez Tabari, mais encore une fois, elle n'est pas authentifiée, certains historiens prétendent que Abu Sufyan, il a fait déplacer ces deux divinités, Al-Lat et Uzza, l'Uzza. Sauf que beaucoup de versions nous expliquent que Al-Lat et Al-Uzza, ce n'est pas des statues. Ce n'est pas des statues, mais que Al-Lat, c'était symbolisé par une sorte de grand rocher qui était situé dans la ville de Ta'if, à peu près à 80 km au sud de Mecca, et que les gens adoraient. Donc, si cette version est avérée, comment on fait pour déplacer ce grand rocher ? Non. Et quant à l'Uzza, c'était à la Mecque, et c'était trois arbres sur lesquels il y avait des tissus, etc., que les idolâtres adoraient en dehors d'Allah Azzawajal, et qu'ils associaient à Allah Azzawajal. Ta'ala Allahu amma yushrikun. Et donc, pour ces deux raisons, on a dit la non-authentification de ce récit et le fait que, selon toute vraisemblance, ce n'était pas des statues, mais c'était des choses difficiles à transporter, surtout pour l'époque. Selon toute vraisemblance, ces versions ne sont pas authentiques. Les idolâtres étaient convaincus que ces divinités étaient la progéniture, a'udhu billah, la progéniture de Dieu, la progéniture d'Allah. Et pas n'importe quelle progéniture, ils disent, ce sont les filles d'Allah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Avez-vous vu la fausse divinité d'Allah Azza wa Jalla? Question, avez-vous vu Lat et l'Uzza? Wa manat al-thalithat al-ukhra? Et manat, la troisième? Est-ce que vous donnez à Allah les filles et vous prenez les garçons? Pourquoi Allah il dit ça? Parce que les Arabes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que les garçons, c'est mieux que les filles. Allah il n'a jamais dit ça, au contraire. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla, il blâme cette fausse croyance de penser que avoir un garçon, c'est mieux que d'avoir une fille. Et donc il leur dit, est-ce que vous vous prenez pour vous les garçons et vous laissez à Allah les filles? C'est ça votre respect, entre guillemets, de Dieu? Tilka idhan qismatun briza. Ceci est donc un partage injuste. Briza, c'est qisma ja'ira. Un partage qui est injuste. Non. En tous les cas, même si cette version n'est pas authentifiée, donc on ne peut pas dire avec certitude, et comme on l'a dit, très probablement, ce n'est pas avéré, si on ne peut pas dire avec certitude que physiquement ces divinités ont été amenées, on va dire que l'esprit ou la fausse croyance en ces divinités était présent à Uhud. Puisque le slogan... Chaque armée avait un slogan pour le combat. Et ça faisait aussi partie, il faut imaginer qu'il y a un slogan qui est répété par des centaines, des milliers de personnes. Ici, les idolâtres sont 3000. Ça permet de faire peur, de terroriser le camp d'en face. Et on sait que le slogan des idolâtres à Uhud, c'était « U'lu Hubal ». U'lu, c'est le verbe à l'impératif de « ala ya'lu »« u'lu hubal ». Donc si on traduit littéralement, ça veut dire « élève, fais monter hubal ». Et tout le monde derrière lui répétait « u'lu hubal, u'lu hubal, u'lu hubal ». Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils choisissent ça comme slogan? Parce que c'est la grande distinction entre eux et les musulmans. Finalement, tout ce qui les a amenés à Allah, c'est le fait qu'ils ont toujours refusé qu'on parle d'Allah comme Dieu unique et exclusif sans aucun associé. Et donc, ils choisissent comme slogan « U'lu hubal » pour les provoquer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a un seul mot d'ordre. Même s'il y a toutes ces provocations dans le camp d'en face et que beaucoup de musulmans veulent en découdre. Le prophète sallam veut que ce soit organisé. Donc il leur dit la yuqatilanna ahadukum hatta amurahu biqital. Que nul d'entre vous ne se lance au combat jusqu'à ce que ce soit moi qui lui donne l'autorisation ou l'ordre. Et ils disent ulu hubal, fais élever hubal à travers quoi? À travers le combat, on va leur montrer que notre croyance en les fausses divinités, en hubal par exemple, c'est ce qui va gagner. Et Hubal, c'était la divinité la plus importante de la Mecque. Hubal, elle était tellement importante qu'elle n'était pas comme les autres divinités qui étaient autour de la Kaaba. Les statues, les idoles, ils les mettaient autour de la Kaaba. Hubal, elle a été mise à l'intérieur de la Kaaba. Tellement elle était vénérée, respectée par les idolâtres de Mecca. Naam. Quant au slogan des musulmans, ils en ont plusieurs. Ils ont ceux qu'ils ont toujours. Les slogans qu'ils ont toujours, c'est « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et le Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Naam. Ils ont, et c'est le slogan qu'ils ont choisi en particulier pour la bataille de Uhud, Amit, Amit. C'est deux mots courts qu'ils répètent, et il faut imaginer aussi que ça a fait, que ça fait son effet sur le champ de bataille. Amit, Amit. C'est l'impératif du verbe Amata Yumitu. Si on traduit littéralement, fais mourir, yani tu. La guerre, c'est ce qui se passe à la guerre. Non. Et donc ça, c'est le slogan aussi. Et pendant toute cette étape, il y a ces démonstrations de force. Non. Abou Soufiane va encore tenter quelque chose dans cette étape. Avant de passer au grand combat, il va encore tenter quelque chose. Qu'est-ce qu'il va tenter ? Il va faire appel à quelqu'un qui lui a promis quelque chose à la Mecque. Avant de partir, cet homme, il est surnommé par les idolâtres de l'époque Abu Amir al-Rahib. Abu Amir al-Rahib. Son véritable nom, c'est Abdou Amr ibn Safi. Abdou Amr ibn Safi. Et cet homme qui est surnommé par les idolâtres Abu Amr al-Rahib, Abu Amir al-Rahib, pardon, est surnommé par le professeur Salam et les musulmans Abu Amir al-Fasiq. Et un al-Rahib, ça veut dire le moine, la personne bien zarma. Ah, la personne qui se consacre aux bonnes choses, yani. Le moine. Non. Le professeur Salam a dit Hada laysa bi Abi Amir al-Rahib. Il n'est pas Abu Amir al-Rahib, il est Abu Amir al-Fasiq. Cet homme, pour l'instant, il est ouvertement hostile au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un certain nombre de versions, il va devenir par la suite, après Uhud, un hypocrite. Officiellement, il va venir et il va demander pardon, il va se convertir à l'islam, mais en fait, on découvrira par la suite qu'il va rejoindre le camp des hypocrites, puisqu'il sera, et on verra cet épisode bien plus tard, l'instigateur de la fondation de la fausse mosquée Masjid al-Dirar, la mosquée des nuisances, Masjid al-Dirar, que le professeur Hassan fera démolir. Non, on expliquera plus tard pourquoi. Et celui qui va avoir cette idée de Masjid al-Dirar, c'est Abu Amir al-Fasiq. Non. En tout cas, là, dans la situation de Uhud, Abu Amir Al-Fasiq, il est du côté des non-musulmans. Et c'est quelqu'un à la base qui est de Médine, de la tribu des Haous. Il était même, avant l'arrivée du professeur sallam à Médine, le chef des Haous. Vous savez qu'avant l'arrivée du professeur sallam, comme on a dit, il y avait les Haous et les Khazraj. Le chef des Khazraj, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et le chef des Haous, c'était Abu Amir al-Fasiq. Abu Amir al-Fasiq, lorsque le professeur sallam arrive à Médine, il va décider de quitter Médine. Il ne supporte pas de voir les gens de Médine se convertir à l'islam et il ne supporte pas de voir un autre chef que lui à Médine. Que les gens fassent allégeance, prêtent serment d'allégeance à un autre que lui. Il l'a rêvé pour lui. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Donc il quitte la ville de Médine et il rejoint qui ? Il rejoint les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et à chaque fois, il les provoque. Et il leur dit vous l'avez laissé s'échapper. Il est à Médine en train de détourner tout le monde. Qu'attendez-vous ? Faites quelque chose. Et il va aller jusqu'à leur dire. Donc après la bataille de Badr, il poussera à ce que cette vengeance de la bataille de Badr se fasse au plus vite. Et il ira à chaque fois jusqu'à leur dire et à promettre une chose, c'est qu'il leur dit « Je ne peux pas vous donner ma garantie pour la tribu des Khazraj, mais je vous la donne pour la tribu des Aous. » Quand ils me verront, ils m'ont toujours respecté, j'ai été leur chef, ils m'écouteront. Donc, j'arriverai à les faire partir de l'armée juste avant le combat, pour démoraliser les musulmans et pour les amputer d'un nombre important de combattants. Et donc, Abu Sufyan l'appelle. Elle lui dit, tu nous avais promis qu'ils partiraient. Je leur ai parlé et ils m'ont fait entendre ce que je déteste. Ce que jamais j'aurais voulu entendre. Et les historiens disent même que Abu Amr al-Fasiq n'était pas seul. C'était un groupe. Lui et un groupe avaient quitté Médine. Et on trouve dans certaines versions qu'ils étaient 15. Et les chiffres, le nombre maximum qui est donné, ce serait un groupe de 50. Donc on ne sait pas combien exactement, mais entre 15 et 50. Et donc il serait à Uhud d'Abu Amr al-Fasiq avec ce groupe. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Abu Amr al-Fasiq, c'est le père d'un des meilleurs compagnons du professeur Salim. Abu Amr al-Fasiq, c'est le père, on va encore parler de lui, mais on a déjà parlé un petit peu de lui, de Handala ibn Abi Amir. Celui qui avait été surnommé par le professeur Salim, Rasilul Malaika. Celui qui a été lavé par les anges. Pourquoi ? Parce qu'il va rejoindre l'armée de Uhud, alors que c'est cette nuit-là qu'il s'est marié. Et il n'a pas eu le temps de faire son lavage rituel, il y en a les grandes ablutions, et il va mourir en martyr à Uhud, et c'est les anges qui le laveront, dira le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, c'est un des plus fidèles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant son père, à ce moment-là, c'est un des plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il deviendra par la suite un des plus grands hypocrites. Et on a aussi, c'est le même exemple pour Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. C'est le chef des hypocrites et pourtant son fils, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, est un des compagnons les plus fidèles du professeur. Et il faut aussi penser à ces personnes-là qui vivent ces situations-là. Ils sont dans une armée et en face d'eux, ils ont des personnes qui leur sont chères parce que c'est de leur famille. Et en même temps, qui sont les pires parmi les pires. Imaginez quelle souffrance, quelle épreuve pour ces gens-là. C'est pire que de perdre la vie. C'est pire que de prendre le risque de perdre sa vie ou de perdre ses richesses dans cette bataille. Vous avez quelqu'un comme Moussab ibn Umayr à qui le professeur Hassan lui donne l'étendard. Et sa tribu, ses frères, ses cousins sont en face et ils portent l'étendard des idolâtres. Et il a même sa mère, Khonas bint Malik, qui est en face et qui galvanise et qui fait les poèmes. Comme on l'avait expliqué la semaine dernière. C'est quelque chose qui doit être une épreuve extrêmement lourde pour ses compagnons. Et ça, on l'oublie souvent. Et pourtant, ils ont tenu, ils ont été fermes. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient éprouvés par Allah Azza wa Jal. Naam. Ensuite, il y a Abu Amr al-Fasiq, Abu Sufyan lui dit ce que tu m'as promis. Qu'est-ce que tu m'as promis ? Il va dire, alors fais-moi confiance, je vais aller leur parler, et comme je t'ai dit, les Khazraj, je ne peux pas te donner ma garantie, mais pour les Aous, j'en fais mon affaire. Il va arriver, selon les versions des historiens, devant l'armée des musulmans, et il va dire, Ya ma'ashar al-Aous. Donc il s'apprête à prendre la parole, il s'apprête à dire quelque chose, donc il les appelle. Oh, vous les Aous ! Et là, par contre, on a la réponse qui a été ramenée par les historiens. Il ne le laisse pas continuer. Alors, il vient à peine de les appeler, il doit dire quelque chose. Il ne le laisse même pas continuer et ils lui disent « La an'am Allahu bika aynan ya Aba Amirin al-Fasiq. Ughrub an wajhina. » Que ton œil, c'est une expression, que ton œil ne savoure pas les plaisirs qu'Allah donne. Yani que tu ne vois jamais le bien. Il lui souhaite le malheur. Il ne le laisse même pas parler. Ils l'ont vu arriver, même pas besoin de parler. Toi, tu oses nous parler, yani ? La an'am Allahu bika ayna. Ô toi, Abu Amir, al-fasiq, le corrompu. Éloigne-toi de nous. On ne veut pas te voir. Là, il a compris que c'était mort. Ça n'a rien de continuer. S'il continue, c'est l'humiliation. Il va se faire encore plus insulter. Donc, il a compris qu'il doit faire demi-tour. Et il fait demi-tour et il dit à Abu Sufyan, « Laqad asaba qawmi min ba'di shar. » Mon peuple, ma tribu, elle a été atteinte par un mal après moi. C'est parce que, peut-être parce que je me suis trop éloigné d'eux. Quand j'étais encore prêt, j'arrivais à me faire respecter la khalas. Il y a un mal qui les a atteints. Donc la promesse qu'il a faite, elle tombe à l'eau. Et donc on voit que toutes ces muhawala, ces tentatives, elles tombent à l'eau. Naam. Et on voit que toutes les tentatives, elles vont vers les Ansar, les compagnons de Médine. Abu Sufyan essaye de semer le trouble parmi les Ansar. Et on voit aussi le rôle que les munafiqs, les hypocrites ont joué. Parce que nous, on prend le temps, etc. Mais si on résume, juste pour la bataille de Uhud, on a parlé déjà de certaines choses qu'ils ont fait avant, et on va parler de plein de choses, plein de ruses, plein de stratagèmes qu'ils vont mettre en place après. Mais là, juste pour la bataille de Uhud. On a Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui a tout fait pour convaincre les musulmans de ne pas sortir à la bataille, mais de rester dans la ville pour pouvoir ruser à l'intérieur sans que personne ne le voie. Il n'a pas réussi. Ensuite, lorsqu'ils étaient en train de marcher vers Uhud, il a convaincu un tiers de l'armée de le rejoindre et de rentrer à Médine, en leur faisant croire qu'il n'y aurait pas de combat, c'est qu'un bluff des idolâtres, il n'y aura pas de combat, rentrez chez vous. Il va réussir à semer le doute parmi deux tribus, la tribu des Bani Salama et la tribu des Bani Haritha. On a, quand le professeur Hassan va demander à ce que le guide le fasse passer par des endroits où les idolâtres ne vont pas le voir et ne vont pas comprendre qu'il se dirige vers Uhud, le guide le fait passer par les jardins, les champs d'un hypocrite, Marba ibn Qaydi, qui est aveugle, on avait expliqué, et qui va comprendre que l'armée est en train de passer par là, et donc il va dire, si c'est vous, l'armée des musulmans, si tu es Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'autorise pas à passer par mes champs. Passer par un autre endroit. Et il va même prendre de la terre, des cailloux, ce qu'il trouve, et le jeter vers l'armée. Naam. Et on a maintenant Abu Amir al-Fasiq. Vous voyez ce camp des hypocrites, le mal qu'ils peuvent faire, les torts qu'ils peuvent faire. Et le tort qui vient de l'intérieur, il est toujours plus difficile et il fait plus mal que le tort qui vient de l'extérieur. C'est le pire des torts, celui-là, celui qui vient de l'intérieur. Comme disait l'imam Shafi'i, rahimahullah, prends garde contre ton ennemi une fois et prends garde contre ton ami mille fois. احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فإنه أعلم بالمضرة. Parce qu'il sait mieux le tort sur quel bouton appuyer pour te faire mal. Ton ennemi, à partir du moment où c'est ton ennemi, tu as pris tes distances, et après ces distances, il connaît presque rien sur toi, sur ta vie privée, sur tes dossiers, chacun a ses dossiers, hein, qu'on met de côté, derrière. Si tu vas les dévoiler à quelqu'un, c'est surtout pas ton ennemi. Donc, prends garde, parce que c'est ton ennemi, mais qu'une fois, parce que pour te faire mal, il faut qu'il ait des éléments, il n'en a pas beaucoup. Tu as fermé toutes les portes à double tour face à lui. Par contre, ton ami en qui tu as confiance, à qui tu t'es confié à certains moments, parce que tu pensais que c'était ton ami. Si un jour il se retourne contre toi, alors l'imam Shafi'i te dit, prends garde contre lui mille fois. « Fa'innahu a'lamu bil madarra » parce qu'il sait là où ça va le plus te faire mal. Ah, J'en ai 100 des dossiers pour lui, mais par contre, le dossier violet, c'est le meilleur, celui-là. Lui, il va bien lui faire mal. Et il va jeter ce dossier-là. Naam. Et c'est là la différence entre un ami sincère et quelqu'un qui est pas sincère. L'ami sincère, non seulement il n'utilisera pas ce que tu as pu lui confier dans le cadre de l'amitié, il ne le dévoilera pas et il ne l'utilisera pas. Combien il arrive de fois où un malentendu va arriver avec une personne et cette personne ne fait pas preuve d'intelligence, de maturité, de sagesse. Ou justement, il va utiliser des choses que cette personne lui a confiées dans la dispute ou dans la querelle. Bah, de toute façon, toi, ceci, c'est pas toi qui m'avais dit que... Alors que c'est peut-être quelque chose qui peut être considéré comme un défaut, mais c'est quelque chose qui avait été dévoilé parce qu'on l'avait confié, parce qu'on pensait qu'on pouvait faire confiance. Et donc, si c'est le cas, quand on l'a confié à la personne, quand on a terminé la conversation, elle doit être oubliée. Vous allez me dire, on ne peut pas l'oublier. Bien sûr qu'on ne peut pas l'oublier, mais on doit faire comme si c'était oublié. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe après, c'est quelque chose qui doit être enfoui. Parce que ça, c'est dans un cadre. Et ça doit rester dans ce cadre-là. Non. À la kulli hal. Donc, on voit le tort que les hypocrites ils font et ils peuvent faire. Non. Ensuite, chez les musulmans, toujours avant la bataille, on a aussi des choses qui vont se passer. Parmi ces choses qu'on peut citer, c'est ça va revenir, Inch'Allah. Bi'ibnillah. Naam, les deux compagnons, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, et Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas et Abdullah ibn Jahsh, avant de dire ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont faire à ce moment de la bataille, qui sont-ils ? Vous vous rappelez de qui est Sa'd ibn Abi Waqqas ? C'est un compagnon de la Mecque, tout comme Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh, il fait partie des tout premiers muhajirs vers Médine. Abdullah ibn Jahsh, lui et sa famille, la plupart sont convertis à l'islam dans sa famille, dans sa tribu. Ils vont tous faire la hijra, secrètement, et du jour au lendemain, leur quartier va se retrouver vidé. Naam. Sa'd ibn Abi Waqqas, il est aussi un des tout premiers à s'être converti à l'islam. On le compte généralement dans les 10 premiers à s'être converti à l'islam. Il fait partie des 10 premiers au paradis. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, c'est le premier, comme on l'avait dit, avant la bataille de Badr, il y avait une expédition et c'était la première expédition où il y avait des lancers de flèches. Et on avait dit que le premier à avoir lancé des flèches dans l'islam, c'est qui ? C'est Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Donc on ne parle pas de n'importe qui. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, il va rester vivant jusque bien après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que justement il va rester vivant autant de temps par rapport à une dua qu'il va faire à Uhud, comme on va le voir. Qu'il regrettera d'ailleurs. Il va regretter cette dua, comme on va l'expliquer. Quant à Abdullah ibn Jahsh, il était aussi le premier dans quelque chose. C'est lui qui était à la tête de la première expédition qui a fait du butin et des prisonniers et un mort du côté des idolâtres. Vous vous rappelez la fameuse expédition où le professeur Sam avait envoyé une dizaine de compagnons et il avait mis à leur tête Abdullah ibn Jahsh et il leur avait dit, c'était Sariyatu Nakhla, l'expédition de Nakhla. Il leur avait dit, ramenez-moi juste des informations sur la route commerciale du sud, entre la Mecque et le Yémen. Ne vous faites pas voir, il en est ramené juste les informations. Et finalement, quand ils ont été, ils ont observé, ils ont pris les informations. Et avant de partir, ils ont vu qu'il y avait une petite caravane, très mal protégée, des idolâtres qui revenaient du Yémen. Et donc, ils ont décidé, sans avoir l'ordre du professeur Sam de le faire, de l'attaquer et de faire le butin, etc. Et ça s'était transformé en... Ils avaient réussi à faire deux prisonniers et à tuer un idolâtre. Et le professeur Sam leur en avait voulu et s'était mis en colère contre eux, comme on l'avait expliqué, parce qu'il leur avait dit que ce n'était pas l'ordre qu'il leur avait donné. Même si par la suite, des versets dans Surat al-Baqarah avaient été révélés pour faire l'éloge de ses compagnons. Naam. Et du choix qu'ils avaient fait. Donc c'est de eux qu'il s'agit lorsqu'on parle de Abdullah ibn Jahsh et de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhumah. Et Abdullah ibn Jahsh, dans toute cette étape de démonstration de force, qui vient voir Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, il lui dit « Ala ta'ti fa nad'u Allah ?» Ne viendrais-tu pas avec moi pour qu'on invoque Allah, pour qu'on implore Allah ?» On a deux compagnons qui sont là, qui voient tout le brouhaha, le vacarme, le hobal, de leur côté, amit, amit. Et eux, à quoi ils pensent ? Faisons des doigts. Isolons-nous, éloignons-nous, mettons-nous à l'écart pour implorer, pour invoquer Allah Azza wa Jal. Ajib, yani. Et Sa'd ibn Abi Waqqas va lui dire, bala, si, allons-y. Et ils vont se mettre sur le côté. Les autres compagnons ne savent pas ce qui se passe. Dans toutes ces démonstrations, ce brouhaha, certains ont pu peut-être se dire, est-ce qu'ils ont été convaincus par ceux qu'ils appellent à quitter les partez, et qu'ils ont peur et qu'ils partent. Et en fait, on les voit se mettre à l'écart. Et c'est Sa'd ibn Abi Waqqas qui va commencer à faire une doua, dans laquelle il va dire, Allahumma idha laqitu al-adou ghadan. Ô Seigneur, si on traduit littéralement, on va penser que la traduction c'est si je rencontre, on rencontre l'ennemi demain. Pourtant c'est ce jour-là qu'ils sont devant. Radan, ça vient de l'radat. Donc nous on l'utilise pour demain, sahih, c'est ce que ça veut dire. Mais ça peut aussi être utilisé, c'était le cas dans l'arabe ancien, pour l'radat, quand on dit radan, c'est-à-dire la fin de matinée, début d'après-midi, le radat. Non. Et donc c'est en ce sens que Sa'd ibn Abi Waqqas, parce que là on est le matin, et donc il dit, si on doit combattre cet après-midi, ce matin, les ennemis, فَلَقِّنِي رَجُلًا شَدِيدًا بَأْسُهُ شَدِيدًا حَرَدُهُ فَأُقَاتِلَهُ فِيكَ وَيُقَاتِلَنِي وَارْزُقْنِي عَلَيْهِ الظَّفَرْ حَتَّى أَقْتُلَهُ وَأَخُذَ سَلْبَهُ. Il va dire, oh Seigneur, si on doit rencontrer des ennemis aujourd'hui, fasse en sorte que ce soit l'homme que je vais rencontrer, l'ennemi que je vais rencontrer, je fais ce qu'il demande. Rajulan shadidan ba'suhu. Un homme qui aura une dureté très, très, très forte, très prononcée. Un homme dur. Donne-moi pas quelqu'un de doux que je vais mettre à l'amende tout de suite. Non. Je veux, comme on dirait aujourd'hui, je veux un wa'ar. Quelqu'un de très dur. شديداً حرده شديداً حرده. Quelqu'un de très dur et quelqu'un الحرد. Qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire, quand on dit رجلٌ حريد, c'est quelqu'un qui se met à l'écart, qui est tout seul. نعم. C'est même le même verbe qu'on utilise, la même racine pour dire quelqu'un boud en arabe littéraire. On dit حرده يحرده. Il boude. Pourquoi ? Parce que ça vient du même mot qui veut dire se mettre à l'écart. Quand tu boudes, qu'est-ce que tu fais ? Et tu pars, regarde, tu montres que t'es, physiquement, tu n'es pas avec les gens, tu n'es pas content. Non. Mais ça peut aussi vouloir dire al-ghayb, al-ghadab, la colère. Et ici, c'est en ce sens qu'il utilise Sa'd ibn Abi Waqqas. Rajulan shadidan haraduhu. Un homme qui est plein de haine, un homme très dur et plein de haine, qui va en découdre avec nous. C'est un ennemi, un adversaire comme ça que je veux. Et ensuite, il va dire « Warzuqni » et fasse en sorte que je le combatte pour toi, et que lui aussi me combatte, donc on se combat, et donne-moi la victoire contre lui, jusqu'à ce que je le tue et que je prenne ce qu'il laisse. Il y en a le butin. Et Abdullah ibn Jahsh qui est à côté, il dit « Amin ». Il dit « Maintenant à mon tour ». Et ils ont dit « On se met tous les deux à l'écart pour faire du'a. Maintenant à mon tour ». Et il va commencer comme lui, mais il ne va pas terminer comme lui. Il va dire « Allahumma, urzuqni rajulan shadidan ba'suhu. Laqini rajulan shadidan ba'suhu. Wa shadidan haraduhu. Ô mon Seigneur, fasse en sorte que je vais être confronté à un homme très dur, à un homme plein de haine. Fa'uqatilahu fik. Et que je le combatte pour toi et uniquement pour toi. Wa yuqatilani. Et que lui aussi me combatte. Fa'yaqtuluni. Et qu'il me tue. Fasse que ce soit lui qui me tue. Ajib. Et il va plus loin encore. Wa ya'khudhani. Et qu'il me prenne. Imaginez Sa'd ibn Abi Waqqas qui est à côté. Et qu'il me prenne. Fayajda'a anfi wa udhuni. Et qu'il découpe mon nez et mon oreille. Hatta taqula li ya rabb. Jusqu'à ce que tu me dises, il y en a au jour du jugement dernier quand je vais te rencontrer à Allah, tu vas me dire fima judi'a anfuk wa udhunuk. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour qui? Tu as été balafré, on t'a amputé du nez et des oreilles. Fa'aqul fika ya rabb. Et que je puisse te dire pour toi ya Allah wa taqul, et que tu me répondes sadaqta ya abdi, tu as dit vrai ô mon serviteur. C'est tout ce que je demande moi. Je ne demande pas à gagner. Je demande à un des plus durs et que ce soit lui qui gagne et qu'il fasse plus encore. Et je vous ai dit que Sa'd ibn Abi Waqqas est resté vivant. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est lui qui nous rapporte cette histoire. Il nous dit, et cette histoire elle a été authentifiée par beaucoup de muhaddithim, parce qu'à chaque fois on essaye de dire si c'est authentique ou pas. Dans toutes celles que j'ai citées aujourd'hui, c'est celle qui est la plus authentique. Elle a été rendue fiable par beaucoup de muhaddithim. Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit « فَكَانَتْ دَعْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ جَعْشْ خَيْرًا مِنْ دَعْوَةِ وَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ آخِرَ النَّهَارِ وَأُنْفُهُ وَأُذُنُهُ مُعَلَّقَانِ جَمِيعًا فِي خَيْطِ. La dua, l'invocation de Abdullah ibn Jahsh était bien meilleure que ma dua à moi. Et je jure par Allah qu'en fin de journée, j'ai vu son nez et ses oreilles pendre au bout d'un fil. Parce que comme on le verra plus tard, les femmes idolâtres vont mutiler les corps des martyrs musulmans et ils vont faire avec leur nez, leurs oreilles et même leurs organes génitaux des colliers, comme on le verra. Naam. Et donc il dit, moi j'ai vu de mes propres yeux que sa dua a été exaucée, il a été tué, on lui a pris son nez, ses oreilles, et on les a mis dans un fil pour en faire un collier. Naam. Donc on est toujours dans ces démonstrations, et là, l'étape d'après, on avait déjà parlé d'un duel, si vous vous rappelez. Il y avait eu un duel, même s'il n'avait pas été avéré et authentifié, entre Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et Talha ibn Uthman. Et là, il y a un homme, parmi les idolâtres, qui va s'avancer sur un chameau vers le camp des musulmans et qui va provoquer les musulmans en duel. Mais cet homme, il est connu pour être quelqu'un de féroce et un adversaire extrêmement dur, à un tel point qu'il va provoquer en duel et personne n'ose sortir. Pour répondre à sa requête et à sa provocation, jusqu'à ce qu'un compagnon, finalement, sorte du lot et aille le combattre en duel. Qui est cet idolâtre? Qui est le compagnon qui va aller à sa rencontre? Et comment va se terminer ce duel? Ça, c'est ce que nous verrons, bi'idhnillah, la fois prochaine. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Bonjour.